en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Pierre Léna, le moment essentiel ?
Je crois qu'il y en a eu plusieurs. Les moments de l'enfance qui sont très intenses, parce que ce sont des sensations qui vont traverser toute l'existence. Des émotions devant le monde physique, la lumière, la couleur, le ciel, les étoiles. Et puis plus tard, des moments d'émotions professionnelles encore. Par exemple, au foyer des très grands télescopes, lorsque l'on passe une nuit au Chili, sur une haute montagne, et puis qu'on attend les données avec un instrument qu'on a construit à la sueur de son front, un certain nombre d'années.
Vous avez été au cœur d'un projet très important, hein, le nouveau télescope européen, justement installé au Chili. Est-ce qu'on peut dire que sur ce plan-là, au moins, l'Europe existe, celui de l'astrophysique ?
Ah, non seulement on peut, mais on doit le dire. Parce que ma génération a vécu l'après-guerre. Dans les années 50 et début des années 60, quand je sortais tout juste de l'école normale supérieure, rue d'Ulm, notre sentiment était que la France scientifique n'existait pratiquement plus. La guerre avait laissé des traces partout, il n'y avait plus de laboratoire, mais en même temps un grand mouvement, un immense espoir né autour de professeurs à la Sorbonne, Paul Germain par exemple, qui était alors un tout jeune professeur, Laurent Schwartz, et qu'un objectif se faisait presque évident et impératif pour notre génération, encore plus après le retour au pouvoir du général de Gaulle, construire une France et une Europe scientifique, et qui soit un jour, disons au moins, à égalité avec les États-Unis. C'est ce à quoi, sans trop le savoir d'ailleurs, mais en le vivant intérieurement très fort, comme beaucoup de mes collègues de l'époque, j'ai consacré une partie importante de ma vie professionnelle, avec notamment la conception puis la construction de ce grand télescope.
Ça, c'était dans les années 60, c'est ça ?
Oui, je suis sorti de l'école normale en 1960, donc nous n'avions pas d'instruments. Je suis parti aux États-Unis pour finir ma thèse parce que seul là-bas, j'ai pu trouver le télescope pour étudier le soleil qui existait en Arizona. Et je suis revenu, alors que j'aurais pu choisir de rester aux États-Unis, les propositions ne manquaient pas, avec la perception évidente qu'il fallait faire émerger l'Europe.
Alors vous évoquez Normale Sup, il y a un mémoire récent, un mémoire à master, hein, qui a mis en valeur justement l'importance des sciences à Normale Sup au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Vous rappeliez que vous étiez élève de Normale Sup à cette époque-là, mais vous-même, vous avez vécu comment cette époque-là à Normale ? Vous aviez vraiment la sensation qu'il se passait quelque chose d'important ?
Oui, tout à fait. J'étais dans une classe préparatoire au lycée Janson de Sailly qui était tout à fait nouvelle et où l'accent était mis sur la physique et non pas les mathématiques. Ce qui était absolument anormal parce que le concours était complètement dominé par l'ENS et l'école polytechnique, entièrement consacrée aux mathématiques, où la physique était ancillaire, si on peut dire. Et puis le commissariat à l'énergie atomique qui venait tout juste d'être créé après-guerre, avec Frédéric Joliot-Curie comme haut-commissaire, a immédiatement réalisé que pour réaliser les ambitions nucléaires de la France, civile et bientôt militaire, sans physiciens, c'était un rêve. Et donc, cette classe a été ouverte pour former des physiciens français. Et beaucoup de mes camarades avons choisi la physique qui nous a été admirablement enseignée, et ensuite à l'école normale supérieure, avec des noms comme Kessler, Hubert Curien, Yves Rocard et bien d'autres.
Tant que vous avez été porté par un climat.
On a été porté par un climat qui a continué dans les années 60, parce qu'après l'atome, c'est l'espace, avec la création du Centre national d'études spatiales, Jacques Blamont, Jean-Claude Péquer, qui ont été des acteurs de cette décennie 1960. Et là encore, le but était de faire exister la France spatiale d'abord, lancement de satellites, et ensuite la France scientifique spatiale, lancement d'observatoires dans l'espace, qui a occupé aussi une partie de ma carrière.
Alors j'évoquais en introduction donc vos fonctions à l'Académie des sciences en tant que délégué à l'éducation et la formation. De quand date très précisément votre prise de conscience de l'importance clé de ces questions d'éducation et de formation ?
Je dirais depuis toujours.
Depuis toujours ?
J'ai toujours été passionné par la transmission du savoir. Même
pourquoi
au lycée,
parce que vous avez la sensation d'avoir beaucoup reçu, c'est ça, non ?
C'est un élément, mais j'ai été gâté de façon raisonnable. Et surtout, je pense, par mon père, qui était un homme fort intelligent, passionné de la science, de lire les revues, les livres, mais qui était autodidacte, qui n'avait pas pu terminer ses études, qui a donc construit sa vie professionnelle à la force du poignet, et pour lequel l'éducation était ce dont il avait, scolaire j'entends, était ce dont il avait largement manqué, et dont il ne voulait à aucun prix qu'aucun de ses 6 enfants ne manque. Et donc nous avons été élevés, j'étais l'aîné, dans une sorte de respect du savoir, de la connaissance, avec humour d'ailleurs, sans contrainte, je ne me souviens pas d'avoir jamais été forcé d'apprendre. Et voilà. Et très vite m'est venu aussi le goût de la pédagogie, c'est-à-dire de recevoir, mais aussi d'expliquer, peut-être à mes frères et sœurs, et puis ensuite à mes camarades, et plus tard évidemment à mes étudiants, ce que j'avais compris.
Et il y a quelqu'un qui a quand même joué un rôle important dans le développement de cette prise de conscience, c'est Georges Charpak.
Beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, puisque j'ai rencontré Georges Charpak avec Yves Quéré en 1995.
Ah oui, le fameux trio, quoi. Vous avez ensemble lancé ce qu'on a appelé la main à la pâte.
Voilà, mais c'est beaucoup plus tard.
C'est beaucoup
J'avais
plus tard,
déjà une longue carrière d'enseignant universitaire derrière moi.
Oui, c'est ça. Cette perception-là vous a amené à diagnostiquer très vite les problèmes essentiels?
Je crois que le diagnostic date en fait d'un moment de prise de conscience qui a été très intéressant. En 1989, j'ai été élu, une élection qui m'a comblé parce que elle est un peu signe de reconnaissance, président de la Société française de physique, très vieille société savante qui a eu à peu près tous les grands physiciens de l'avant-guerre comme président. J'étais un peu surpris que cet honneur et cette responsabilité surtout me reviennent, mais je l'ai pris avec beaucoup d'intérêt. Ce fut d'ailleurs un moment passionnant parce que ce fut la visite d'Andrei Sakharov en France, peu avant sa mort, un très très grand moment, une très grande intensité scientifique et surtout politique. Et à la tête de la Société française de physique, j'ai voulu faire le point de la pédagogie à l'école primaire avec quelques collègues, dont Françoise Balibard, physicienne également. Et pendant 2 ans, nous avons fait un travail d'analyse de ce qu'était l'état de l'enseignement des sciences dans les écoles primaires françaises. Et le constat a été catastrophique. Et avec un certain nombre de collègues, je me suis dit, c'est pas possible. Donc on a publié ce rapport, d'ailleurs on en a fait un petit livre avec le ministère de l'Éducation nationale, mais ça s'est arrêté là et la prise de conscience au ministère était, disons, très superficielle. Est arrivé Georges Charpak avec Léon Lederman, donc autre prix Nobel de Chicago, que j'ai rencontré et qui portait un projet tout à fait semblable, mais avec le prestige de son prix Nobel 1992. Donc nous nous sommes immédiatement entendus et j'ai rejoint cette équipe tout en continuant ma vie professionnelle. Mais depuis une dizaine d'années, l'intensité de l'engagement de l'Académie des sciences et du mien personnel a crû à la mesure des disponibilités de temps que j'avais.
Alors justement, ceux qui vous ont entendu le 1er mars dernier prononcer à l'Académie des sciences votre discours sur les nouveaux défis de l'éducation ont été frappés de voir à quel point vous mettiez en évidence dans ce domaine l'échec de l'élitisme républicain. Vous pourriez nous donner un ou deux points de repère clés sur ce point, parce que vous n'y êtes pas allé de main morte, là, hein. On avait l'impression que c'était l'enterrement de Jules Ferry.
C'est vrai, mais je crois que pour être entendu aujourd'hui sur l'éducation, il faut crier très fort. Georges Charpak, d'ailleurs, lui-même a crié très fort, et certains d'ailleurs lui ont reproché, mais il avait assez d'humour, un humour que je n'ai pas toujours, pour se faire entendre avec son prestige aussi. Oui, échec, le mot même vient de Christian Baudelot, du sociologue Christian Baudelot, qui a publié un livre qui porte ce titre. Et que je vois de la manière très simple suivante. Nous avons une école primaire de bonne qualité en France. On peut faire mieux, mais on peut faire pire aussi. Et nous avons une phase de transition extraordinairement importante pour l'avenir de chaque jeune qui s'appelle le collège et qui dure 4 ans entre la 6e et la 3e, qui achève la scolarité obligatoire. Pendant ces 4 années, on pourrait espérer que l'école, comme elle a su le faire longtemps, va compenser au moins en partie et l'absence de privilèges de la naissance. Elle va compenser pour ceux dont les familles, le milieu culturel, l'environnement social, l'héritage lié à l'immigration, etc., ne permettent pas de se trouver aussi à l'aise avec les savoirs que les enfants bien nés, voire ceux qui ont une cuillère d'argent dans la bouche. On pourrait attendre de cela de l'école. Or, ce que toutes les analyses montrent, c'est que non seulement elle ne le fait pas, mais qu'à l'issue de ces 4 années, les différences sociales se sont aggravées. Or, le pays, comme je l'ai rappelé sous la coupole, dépense des sommes considérables. Et par ailleurs, les sciences jouent dans ce processus un rôle sélectif qui est presque un rôle de couperet. Les mathématiques plus que les sciences de la nature.
Donc, il ne faut pas être victime de l'image, enfin victime, entre guillemets, de l'image d'une élite qui cacherait la forêt, quoi, c'est ça?
Alors, nous avons les deux. C'est-à-dire, nous sommes un pays où nous construisons une élite d'ingénieurs, de savants, de chercheurs, ceux qui vont peupler nos grandes écoles, caracolé en tête des classements dans les universités, d'excellente qualité que le monde, si l'on nous envie, en tout cas que le monde admire. Malheureusement, Georges Chapac aimait souvent à dire cela, et je crois que c'est à peine exagéré, que nous recrutons nos élites sur une population de 6 millions d'habitants. C'est-à-dire que...
On sacrifie toute une partie de classe d'âge, c'est ça?
On sacrifie toute une classe d'âge. Elle n'a pas ses chances, et surtout, les handicaps qui sont assez naturellement ceux d'une famille moins culturellement dotée, ne sont plus compensés par l'école. Le collège unique, on le lit beaucoup dans la presse ces jours-ci, est essentiellement l'antichambre du lycée général et technologique. C'est-à-dire en gros la moitié d'une classe d'âge.
Alors, dans votre discours à l'Académie des sciences, vous proposez toute une piste de réforme. Je ne vais pas insister là-dessus parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y en a trois. Transformation de la pédagogie, donc dans le sens de l'investigation. Formation continue des professeurs en les mettant au contact de la science vivante et de ses acteurs. Et puis, conception plus globale du savoir, décloisonnement, interdisciplinarité. Ce qu'il y a d'intéressant derrière ça, c'est que vous nous dites, Jules Ferry disait, il y a trois piliers de l'éducation, donc c'est lire, écrire et compter, donc sa fameuse lettre aux instituteurs, 1883, hein, je crois. Et vous vous dites, attention, il faut en ajouter, mais vraiment, aujourd'hui, c'est absolument indispensable, un quatrième qui est raisonné. L'idée, Edgar Faure disait un peu la même chose en 68, quand il disait, l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas d'apprendre, mais d'apprendre à apprendre, c'est ça?
Je ne prétends à nulle originalité en énonçant cela. Ce que je souhaite dire... simplement, et le dire du point de vue d'un scientifique qui ne prétend pas de compétences sur autre chose que l'enseignement des sciences.
Ah oui, mais c'est déjà pas mal.
Sur ce dernier, je crois que nous avons une expérience, une réflexion qui nous permet de parler. Sur l'enseignement des langues vivantes, du français, de l'histoire, je ne prétendrai pas du tout dire des choses aussi définitives. Simplement, nous lisons aujourd'hui, même en dehors de la France, hein, c'est important de voir que les questions que vous évoquez, les propos que vous rappeliez, ne sont pas propres à la situation française, même si elle a les caractéristiques que dont nous souvenons à l'instant. Tous les pays sont face à ce type d'interrogation, parce qu'ils sont pris dans la spirale de la modernité, de la globalisation, parce que le choc des technologies sur les cultures traditionnelles est radical. Donc... L'objectif lire, écrire, compter, au fond, qui est devenu, après Jules Ferry, celui de l'UNESCO, a été la grande victoire du siècle et demi qui nous a précédés, c'est-à-dire l'instruction primaire obligatoire se répandant progressivement. Je lisais hier les chiffres de la Tunisie, 92 pour les filles, 96 pour les garçons, % des enfants achèvent la scolarité primaire et savent lire, écrire, compter, et souvent même en français et en arabe. Donc, ce fut une très grande victoire de la construction de la scolarité obligatoire de par le monde. Il y a aujourd'hui, je crois, d'après les chiffres de l'UNESCO, à peu près 100 millions d'enfants qui ne bénéficient pas de cela. C'est beaucoup trop. Mais tout le reste en bénéficie. Avec, encore une fois, les nuances pour les filles qui n'achèvent pas, dans beaucoup de pays, la scolarité obligatoire. Les pays Afghanistan, Pakistan, de ce point de vue-là, sont dans un état très dramatique. Mais voilà, c'est une étape. Il nous faut franchir la suivante. Or, la suivante, pour la définir, il faut regarder l'avenir. Quelles sont les grandes questions? Quelles les générations d'aujourd'hui vont avoir à faire face au XXIe siècle? Comment les sociétés vont-elles réagir et se construire face à la problématique de l'énergie, de la santé, des communications, des transports, de l'urbanisation, de l'évolution démographique, etc. Notre sentiment, longuement travaillé au sein de l'Académie des sciences, avec beaucoup de rapports sur ce sujet, c'est que tout ça dépend, en grande partie, mais pas exclusivement, de la maîtrise de la compréhension de la science et de la technologie, de la maîtrise pour en avoir des acteurs compétents et qualifiés, et de la compréhension pour en avoir des citoyens capables, dans les démocraties, de prendre des décisions aussi justes et raisonnables que possible. Ce raisonnement, la science n'est pas la seule à le transmettre à l'école, mais elle y contribue très fortement. Voilà pourquoi ce quatrième objectif me paraît être... un bon slogan, si on veut, pour une école qui va au-delà du lire, écrire, compter.
Pour continuer à découvrir Pierre Léna, Canal Académie vous invite à consulter l'intégralité de l'émission L'Essentiel avec Pierre Léna de l'Académie des sciences. Journaliste Jacques Pogam pose 7 questions essentielles à ses invités académiciens. Retrouvez-les dans nos émissions en habit vert à la rubrique L'Essentiel.